sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Bonjour, c'est Clémentine. Bienvenue sur les chemins de la création. L'émission hebdomadaire où, comme son nom l'indique, nous parlons de création. Et comme d'habitude, je me trouve en compagnie de deux artistes venant d'univers plus ou moins différents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëlle Arsan, qui est comédienne, et Léa, dessinatrice et tatoueuse. Bonjour Maëlle et Léa.
Salut.
Salut.
Ça va bien?
Plus ou moins.
Ouais, ça va.
Allez, je voulais d'abord, pour commencer, la question qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que la création entre dans vos vies, respectivement.
Wow, bonne question. Je crois que ça a toujours été un peu là.
Depuis la naissance?
Ben alors, ça, j'en sais rien, on s'en rappelle pas forcément, mais au plus loin que les souvenirs sont là, ouais, le dessin et les choses comme ça, ça a toujours été présent. Peut-être là, ça vient de la famille, je pense aussi. De l'entourage, au départ.
Tu veux dire que ta famille, ils ont un pied dans le dessin, dans l'artistique?
Oui, dans la peinture, il y a toujours eu mon père qui dessinait, mon grand-père qui me sortait des toiles de mon arrière-grand-père, ma grand-mère qui faisait des abstractions, des trucs des deux côtés, du père, de la mère, genre.
Ok, une sacrée transmission.
Ça, c'était pas leur but, mais ça s'est fait comme ça, je crois, au départ, ouais.
T'as baigné... là-dedans.
Ouais, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, mais... Ouais, je sais pas, moi je dessinais avec mon père quand j'étais petite, et après ça a pris plus de place, quoi.
Yes. Et toi, Maëlle?
Eh bien, je pense un petit peu comme Léa aussi, ça vient depuis très longtemps. Je pense que le premier souvenir que j'ai qui a éventuellement un rapport avec la création, c'était avec... un ami imaginaire que j'avais quand j'étais toute petite, qui s'appelait, je sais pas, il est peut-être encore quelque part, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, Jacques Doux. Et on faisait beaucoup d'aventures ensemble. Et quand il est parti, ou peut-être même au même moment, je sais pas, en tout cas, j'ai des souvenirs de faire beaucoup d'aventures avec des amis mes copains de classe, ou voilà, quand on partait en week-end et qu'on était tous les enfants, chacun dans notre bulle, et à créer des mondes et des quêtes, voilà, ça partait plutôt par là, ouais.
Et Jacques Doux, il était tout le temps dans le secteur cette période?
Oui, il était dans le secteur jusqu'à je pense que je devais avoir, ouais, peut-être 4-5 ans. Et je me souviens de son... Enfin, je me souviens pas de son départ, mais je me souviens de la trace que ça a laissé de vide et de « Ok, maintenant, c'est moi face au monde. » Voilà.
Ouais, et tu sais comment tu l'as créé, Jacques Doux? T'as des souvenirs?
Non, aucun. Je sais que c'était un singe gris. Après, j'ai pas d'autres souvenirs visuels, où on m'a beaucoup raconté de choses, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, mis à part le fait qu'il était tout le temps là, quoi.
Ok. Je trouve ça trop mignon.
Les amis imaginaires?
Ouais.
Ouais, assez aussi.
Ben ouais, en fait, ça veut dire qu'on convoque l'imaginaire. L'imaginaire, il a une place certainement centrale dans la création, à un endroit.
Oui, et aussi, elle est partagée. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a dans la transmission Enfin, je sais pas, en vrai, du coup, c'est une question que j'ai à te poser, mais est-ce que du plus longtemps, enfin, depuis le début, quand tu commençais à faire du dessin, t'avais déjà envie de les montrer, ou c'était plus pour toi-même?
Je sais pas vraiment, parce qu'après, le dessin, quand j'ai commencé, moi, au départ, je recopiais beaucoup de choses. C'était des choses que je voyais qui me plaisaient, et j'avais envie de faire ça, donc je me rappelle, franchement, je me rappelle pas si j'avais envie de les montrer ou pas. Non, je pense que tant qu'il n'y a pas eu un truc vraiment personnel qui s'est mis en place... C'était plus, je sais pas, comme un passe-temps, un truc comme ça. Peut-être j'étais un peu admiratif des gens qui dessinaient aussi. Mmh. Et du coup, un truc un peu de mimétisme au départ, jusqu'à trouver vraiment
Et du coup, comment ça s'est fait? À quel moment t'as trouvé un peu ton...
J'arrive... Bah,
dans ta patte à toi, quoi.
Dans le dessin, c'est venu super tard au final, parce que moi, j'ai fait de la ferronnerie d'art en premier. Du coup, au départ, je travaillais plus des choses en volume. Et là, il y avait une curiosité de la matière, de ce qu'on pouvait en faire, de transformer. Et le dessin, c'est venu après, quand j'ai repris des études, que j'ai arrêté la ferronnerie d'art. Et je suis tombée dans une super école où les profs vraiment nous ont poussés à développer notre imaginaire respectif, quoi, et notre univers. Et du coup, ça doit faire... C'est maintenant, en fait, que je trouve ma patte dans le dessin. C'est en ce moment, après des années à avoir gratté.
Et tu te souviens de la première fois où tu as montré une œuvre, un dessin, quelque chose qui te tenait à cœur comme une forme aboutie, où tu le montres au monde, puisque tu disais justement que c'était un peu comme ça, comme un passe-temps, par mimétisme, et qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment de bascule où tu t'ouvres?
Non, c'est pas une bascule, c'est un truc qui se fait petit à petit. Au final, c'est très insidieux, tu t'en rends pas compte, tu le vois pas venir. C'est pas un truc qui renverse la balance d'un coup. C'est pour ça que du coup, c'est délicat d'en parler, parce que vraiment, c'est un truc qui arrive crescendo au fur et à mesure. Un jour, tu te retournes et tu te dis, ah oui, d'accord.
Ouais,
genre,
ça
en fait, on a fait ça
seul.
Vraiment. Ouais.
C'est fluide, quoi. Ouais.
Ouais, je crois, ouais.
Et est-ce que très vite, t'as réussi à prendre une création comme terminée? Enfin, à accepter, est-ce que t'as réussi à, au bout d'un moment à. Enfin, ou peut-être dès le début d'ailleurs, je sais pas. Mais à te dire, ok, là, ce projet, il est terminé. Ou est-ce qu'il y a un truc un peu comme. Qui est tout le temps mouvant et qui peut être modifié
Je sais pas, je pense que ça dépend la démarche de base quand je commence un truc. Par exemple, si je bosse sur une planche de flash qui est destinée à être tatouée, je sais à peu près ce que je veux, je sais pourquoi je le veux parce que je l'imagine par rapport au corps. Et du coup, là, ouais, je suis un peu une ligne, mais la peinture, c'est différent. C'est genre, c'est vraiment visuel, tu te dis, ah oui, ça y est, là, c'est bon, j'arrête. Mais j'ai plein de trucs inachevés parce que justement, je suis là. Mais je ne sais pas. Donc je les pose dans un coin et j'ai plein de piles de choses entamées, pas terminées depuis des années. Mais ouais, non, c'est pareil.
Et toi, Maëlle, sur le fait d'achever quelque chose ou de laisser des choses en cours de création pendant peut-être des années, est-ce que toi, ça de ton côté, dans le domaine du spectacle, est-ce qu'il t'arrive ce genre de cas où tu n'achèves pas, ou bien tu dis, ok, là, la forme, elle est finie. Comment ça vibre pour toi?
Moi, j'ai l'impression que c'est jamais terminé. C'est toujours en mouvement, c'est toujours... en tout cas, dans le théâtre et en tant que comédienne, j'ai l'impression que je suis en perpétuelle quête de sens et de donner du sens à mes émotions, de leur donner un... De pouvoir transmettre. Enfin, il y a beaucoup d'empathie et de partage dans ce métier. Et en fait, comme on bouge en permanence, nous, à l'intérieur, bah, ça bouge aussi en permanence, vu que c'est du vivant. Donc, j'ai un peu du mal à voir une création comme étant terminée. On n'est jamais dans le même état émotionnel. On peut jouer une pièce 500 fois, en fait, les 500 fois seront différentes. Du coup, non, c'est jamais fini, quoi.
Et c'est pas 500 versions finies?
Non.
Différentes, du coup?
Bah, en fonction de la personne qui porte le projet, la mise en scène peut être considérée comme terminée, le texte peut être considéré comme étant fixe et on n'a plus le droit d'y toucher. Mais par contre, à l'intérieur, c'est différent.
Ok. La représentation, elle évolue tout le temps, quoi.
Là où je pense que j'arrive à trouver quelque chose de fixe, c'est dans l'atelier que je fais avec les tout-petits, et où eux, quand on crée un spectacle avec eux, une fois que le spectacle est joué, je sais que ça va être tellement éphémère que pour le coup, j'essaye de ne pas me sentir frustrée ou insatisfaite de quelque chose. J'essaye de donner et que eux prennent tout le plaisir possible en sachant que ça va être une création unique.
C'est-à-dire, du coup, leur donner des gros repères, des choses à faire très précises, pour qu'ils puissent, après, avoir la liberté et pas la panique sur scène aussi.
Exactement, ouais.
Okay.
Oui, avec les petits, c'est beaucoup. En tout cas, je leur écris la pièce chaque année. Et du coup, je leur donne beaucoup de repères de musique. C'est la musique ils ont quelques phrases de temps en temps qui leur permettent de savoir qu'ils vont passer à un autre tableau. Mais je fonctionne beaucoup par tableau et par musique, et avant, je leur raconte l'histoire.
Yes. Et du coup, quand tu écris là pour les enfants, tu pars de quoi ? Est-ce que tu pars d'eux ? Est-ce que tu pars d'un thème ? Comment ça fonctionne ton processus d'écriture ?
Avant tout, je pars d'eux, parce que j'ai un nouveau groupe chaque année. J'écris toujours la pièce pendant les vacances de la Toussaint. Donc j'ai bien eu le temps de les rencontrer, de voir un petit peu les personnalités que j'ai en face de moi. Et ensuite, très souvent, j'ai une idée de ce dont j'ai envie de parler avec eux, de raconter. Et ça arrive, enfin très souvent, c'est une musique qui va m'inspirer sur quelque chose. Ça arrive que la musique n'ait rien à voir avec le thème que je m'étais donné à la base, et donc du coup, je pars sur radicalement autre chose. Mais très souvent, il y a une musique qui va m'apporter des images et je vais commencer à me dire « Ah ok, je vois ça comme tableau ». Et au fur et à mesure, je vais réussir à, si ce n'est pas le début de l'histoire, de trouver un début, de trouver comment ces personnages peuvent évoluer et comment on peut raconter une histoire avec des enfants si petits.
Yes, et toi Léa, est-ce que la musique elle est présente quand tu crées ?
Plus les textes, à la limite, genre je vais mettre de la musique, mais d'un coup ça va être une phrase que je vais noter dans un coin parce qu'elle va me plaire dans ce qu'elle dit ou dans la façon dont elle est formulée. Ça peut être, comme je viens de l'illustration, ça peut inspirer un dessin dans la foulée, ouais. Mais comme n'importe quel mot, en fait. C'est pas forcément la musique en soi.
Et mettre de la musique pour te mettre dans un état, par exemple quand tu dessines, ou... Pas nécessairement.
Non, c'est plus parce que j'aime pas le style. Enfin, genre, quand je dessine, j'ai besoin d'un truc. Mais ça peut être une série télé, ça peut être un film, un reportage ou de la musique. Ça dépend de l'humeur, mais...
Il faut qu'il y ait un fond sonore pour tapisser ton environnement.
Ouais, complètement, ouais. Ah, sinon, j'ai l'impression d'être puni, de faire mes devoirs et du coup, je sors.
Et du coup, elle te vient d'où, ton inspiration, quand tu commences ?
De tout ce qui m'entoure. C'est vraiment ça, que ce soit les gens, les... Je suis quelqu'un qui voit des bonhommes dans chaque trou, tu sais, qu'il y a dans le crépi, dans les murs, les trucs comme ça. Du coup, ça part de là.
Ça porte un nom d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le fait de...
Une pareidolie.
C'est ça. Incroyable. Notre cerveau, il est conçu pour observer les visages.
Pas que les visages, hein. ça peut être une chaise dans un buisson, ça peut être n'importe quoi. C'est le fait de voir quelque chose de figuratif dans une forme naturelle abstraite.
Yes. Et j'ai entendu parler, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais que c'était aussi un espèce de réflexe de survie qui permettait d'observer des prédateurs dans l'environnement. Mais je ne sais
pas si ça
vous parle ou pas.
Je ne l'ai pas entendu, celui-là.
Ok, bah j'irai fouiller. C'est super intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez des rythmes de création ? Est-ce que parfois c'est le désert pendant
complètement
pendant plusieurs temps, des fois ça comment ça marche ? Est-ce que vous arrivez à avoir quelque chose de récurrent dans la création et la non création, les passages à vide, les passages à plein ?
Je sais pas, moi c'est pas du tout un truc que je contrôle ça, mais en tout cas quand il y a quelque chose sur lequel j'ai pas d'idée ou quoi, je change de médium, je change de support ou juste je force pas.
Ouais.
Ouais. Pas de brusquation.
Et toi, Maëlle ?
Moi, j'ai l'impression que quand j'ai des périodes avec beaucoup de travail qui n'est pas du travail que je m'impose, mais du travail qui vient de l'extérieur, j'ai beaucoup plus de facilité à être force de créativité et à avoir envie d'écrire ou d'apprendre un texte. Enfin... que les périodes de vide, où les périodes de vide, j'ai l'impression d'être... en fait, j'ai l'impression de réussir à être force de création avec les autres. Et du coup, seule, j'ai un peu plus de mal. J'arrive beaucoup plus à être au travail seule quand il s'agit de... pour les ateliers, particulièrement.
Ok. Et du coup, est-ce que la solitude, elle a une place dans ton rapport à la création ?
Oui, elle a une grande place au début, je trouve, une très grande place au début. Après, ça dépend de quelle création, parce que je suis sur plusieurs projets de théâtre, deux où il y a vraiment un texte pour chacun. Là, la solitude, elle est très importante pour moi le fait de découvrir un texte et donc de l'apprendre, j'arrive pas à apprendre un texte avec d'autres gens. J'ai besoin d'être seule et d'être dans le silence complet pour le coup. Et une fois que le processus de création arrive, je fonctionne beaucoup. En fait, comme il y a souvent des grandes périodes où on ne travaille pas, et donc du coup on ne se voit pas avec les autres personnes qui font partie du projet. Du coup, pour se remettre dedans, je fonctionne beaucoup par visualisation de mes déplacements, en me faisant le texte dans la tête, etc. Et là, ces moments-là, ouais, j'ai besoin d'être seule. Mais par contre, tout le reste, non, pas du tout.
Moi, je fonctionne en mute. C'est genre, je peux pas travailler s'il y a pas du monde et du bordel autour. Peut-être à part, sauf pour l'écriture, où ça, ouais, c'est des trucs, ça va se faire quand t'es tout seul pour t'entendre, quoi, dans ta tête. Mais sinon, ouais, je peux pas rester solo pour travailler. Pareil, j'ai l'impression que je suis puni.
Et la meute, ça t'apporte quoi? Des idées, de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que c'est super important?
Moi, je me nourris des liens que je tisse avec les autres tout le temps. C'est un truc, genre, et puis même pour le dessin, je serais jamais arrivé là si j'avais pas eu des rencontres et des gens qui m'ont poussé, qui m'ont montré, qui m'ont appris, qui m'ont ouvert l'esprit et les yeux, tout. Je suis construite de tout ce que j'ai partagé.
Et quand tu dessines seule, t'es quand même connectée à la meute?
Je dessine quasiment jamais seule.
Jamais seule?
Non, c'est yes. Super rare, ouais.
Ok.
C'est vraiment très rare.
Et quand tu tatoues, t'es pas seule puisque t'es avec la personne tatouée?
Mais c'est pareil, le shop, il y a largement assez de monde, donc il y a souvent... Et puis je travaille avec des amis, donc il y a du monde autour. Et puis après, même, il y a des fois, bah, quand je tatoue un copain, ça va venir avec d'autres copains qui sont à côté. Enfin, c'est...
La meute.
Ouais.
Et je me demandais si ça t'arrivait de, notamment quand tu graves dans la rue, de retourner sur des endroits où t'as fait une créa.
Souvent je passe devant par hasard, mais non, j'y retourne pas volontairement. Puis il y a plein de gens qui m'envoient des photos, des pièces de jour, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'instant qui est important.
Ok.
Pas du tout le résultat.
Parce que quand tu repasses devant, ça te fait quelque chose, ça te fait quoi?
Je suis là, oh tiens, t'étais bourré, tu te rappelles pas, t'es passé par là.
c'est ouais, il y a quelque chose de très spontané
ouais, complètement.
Et presque anecdotique, du coup, de ce qui se passe dans la rue. T'as pas ciblé un endroit avant de repérage
ça, ou... J'ai des copains qui sont plus organisés que moi et qui m'embarquent, mais du coup, non, moi, c'est un truc, soit je suis en mode petit robot, il y a un objectif, mais c'est sûrement pas moi qui l'ai fixé, soit sinon c'est vraiment...
Ok.
Ouais, non, il n'y a pas de réflexion en amont.
Instant présent, freestyle.
Ouais, fort. Ouais, fort.
Et est-ce que, une fois sur place, tu commences à tracer des traits et tu vois où ça t'amène? Ou t'as déjà quelque chose en tête?
C'est devenu très mécanique comme geste, vu que je fais toujours les mêmes personnages et tout ça. Il y a zéro réflexion. Et ça dure très peu de temps en plus, en général. Donc, c'est vraiment le but d'avancer et d'en faire plein.
Et... Du coup, dans le fait de dessiner dans la rue, est-ce qu'il y a la notion de laisser une trace quelque part?
Pour le coup, c'était vraiment... Moi, je dessine... Ça faisait un moment que je travaillais plus qu'en numérique, sur tablette, pour de l'argent, vu que c'était pour le tatou. Donc, j'ai réussi à vivre de ma passion. Mais du coup, ma passion, c'est devenu un métier. Alors, du coup, est-ce que je le fais encore pour le plaisir ou est-ce que, du coup, je le fais pour la thune? Et... quand j'ai découvert l'aspray, c'était vraiment du lâcher prise de fou. Donc, juste ça me vidait la tête. J'avais pas de. Ouais, j'attends pas de résultats. C'est les accidents heureux après qui font ah, tiens, on peut faire ça. Donc, la fois d'après, tu te sers d'une. C'est comme dans un jeu vidéo, quand tu viens gagner des armures, des choses. Et au fur et à mesure, du coup, tu maîtrises un peu plus. Mais ça reste un truc très, très jeté, quoi.
Est-ce que ça t'amuse? Est-ce qu'il y a de l'amusement du
oui,
jeu?
Beaucoup. Oui, oui, bien sûr. C'est un jeu, c'est complètement un jeu.
C'est complètement un jeu.
Oui, ça, à la limite, ouais, c'est... Parce qu'après, oui, c'est rigolo quand tu traînes, t'es à deux, que t'es debout sur les épaules de ton pote pour machin, enfin, genre, tu vois, c'est... Ouais, ouais, il y a un côté super naïf dans le truc. Enfin, moi, dans ma démarche à moi, en tout cas, oui.
Yes. Ouais. Et toi, Maëlle, la dimension de l'amusement,
voilà.
Est-ce que t'as des choses à nous dire là-dessus?
Pour moi, l'amusement, c'est le centre, c'est le noyau dur de tout ce métier, comme plein d'autres. Hein, mais quand tu fais du théâtre, tu joues. Et c'est un peu la base, quoi.
J'avoue, tout est dans le titre.
Bah
là,
ouais. Et puis ouais. Je trouve que pour... Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce métier, quand bien même ce soit difficile. Mais l'amusement, il est au cœur de tout, quoi. Il est au cœur de tout, même quand il s'agit de sujets difficiles, parce que même dans une création d'un projet qui parle de sujets importants qui ont beaucoup de sens et qui sont très importants d'être transmis, il faut quand même, même si c'est ailleurs, il faut quand même avoir du plaisir avec les personnes avec qui tu travailles, quoi.
Mmh. Ce qui est parfois pas forcément évident, mais c'est vrai que se ramener à cette dimension de jeu, même quand c'est dur, quand tu as des conditions, tu fais un projet où t'es pas forcément motivé, où tu t'es pas levé du bon pied, pour plein de raisons, se ramener au jeu et arriver à rester connecté à ça, c'est un vrai sujet, oui. Je trouve. Mmh. Et quand il est là de façon évidente, le jeu, c'est un délice.
Oui, puis tu te sens à ta place.
Yes.
Tu sais pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il y a tellement de moments de doute dans ces métiers que ces moments-là, ils te ramènent un peu à l'essentiel, quoi.
Je crois que c'est le truc le plus agréable qui soit, quand tu sais que t'es à la bonne place avec, ouais, les bonnes personnes, qu'il n'y a pas un autre endroit dans le monde où t'as envie, t'es là, non, c'est, ouais, bon. Peu importe, que ce soit pour le boulot ou le reste en plus.
Non, c'est vrai.
Alors, j'ai envie de vous proposer un petit truc freestyle, là. J'ai des petits papiers où il y a des mots dessus. Et je vous laisse prendre un papier au hasard et découvrir le mot qui est marqué dessus. Allez-y, saisissez-vous d'un petit papier.
La puissance.
La puissance pour Léa et Maëlle.
Rage.
La rage. Alors chacune avec son mot, est-ce que ça vous évoque un rapport avec la création ou
Moi, pas du tout.
La puissance ?
Non.
Pas de puissance ? Pas d'absence de puissance.
Genre pour le coup, c'est... non, bah, par rapport à la création, je sens pas une force particulière par rapport à ça, quoi.
Et par rapport à toi à l'intérieur, est-ce que ça peut te faire te sentir puissante ou pas du tout non plus, de façon très personnelle?
Non, je crois pas, non. Non, okay. C'est pas une sensation genre quand j'ai fini une pièce ou un dessin ou un tatou. Oh, la puissance! Non, clairement pas.
Et est-ce qu'il y aurait peut-être une forme de puissance dans le fait d'être proche de toi-même dans ton art ou quelque chose?
Moi, c'est pas.
Tu l'appellerais pas comme ça?
Ouais, non, j'aurais pas mis ces mots là-dessus.
Ok. T'aurais mis d'autres mots?
Je sais pas lesquels, pour le coup. J'sais... Non, vraiment pas.
Et toi, Maëlle? La rage, est-ce que ça te parle ?
Ouais, ça me parle. Bah, je trouve que c'est... ça raconte beaucoup... Enfin, en tout cas, ça me parle dans le sens où ça vient des tripes, hein, ce qu'on fait. Et il y a de la rage là-dedans. Il y a de la rage, il y a de la vie. C'est... Dans l'amusement, il y a aussi quelque chose de très vital. Et encore plus en ce moment, en fait, on a besoin. Et on a besoin de gueuler. On a besoin d'être en colère aussi. Et... Ouais, ça brasse beaucoup.
Et si vous inversez vos mots, est-ce que vous avez des choses à dire sur le mot de l'autre ou pas du tout ?
Tu veux la puissance ?
Allez.
Rage. La rage, ouais, prend la puissance et la puissance prend la rage.
Ouais, moi, je crois, bah, à la limite, c'est peut-être pour pas avoir la rage que je fais tout ça, quoi.
Ok.
Justement, ça permet de pas être en colère contre tout et tout le monde à longueur de temps.
Comme une purge à un endroit ?
Bah, faire un truc qui te fait kiffer pour accepter le monde bizarre dans lequel tu vis, quoi.
Mmh.
Et bah, je pense que ouais, il y a de la enfin, déjà je trouve que c'est assez puissant de se lancer dans ce genre de métier. Et ouais, la puissance, je peux la ressentir, mais je pense que je m'en rends compte après, mais je peux la ressentir sur scène. Il y a un côté un peu intemporel et hors du temps. Et il y a une forme de puissance à ce moment-là. Mais dans la vie, moins. Enfin, dans la vie de tous les jours, beaucoup moins que sur scène, ouais.
Est-ce que, du coup, dans la vie de tous les jours, vous... Comment dire ? Est-ce que votre rapport à la création et à l'artistique, c'est omniprésent ? Ou est-ce qu'il y a un côté professionnel, un côté plus perso, où c'est détaché ? Comment ça s'articule ? Est-ce que tout se mélange ou pas ?
Moi, j'ai jamais su faire la part des choses entre le personnel et le professionnel. Il y a tout qui est mélangé tout le temps. Mais de toute façon, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un métier. Du coup, c'est juste tout un process tout le temps.
Ok. Je suis plutôt d'accord avec Léa. Et puis en plus, la plupart des personnes qui font partie de ma vie personnelle sont aussi des personnes qui font partie de ma vie professionnelle. Du coup, il y a très peu de frontières entre les deux. Et même les personnes qui ne sont pas du tout dans un milieu artistique sont un peu des artistes aussi, au fond. Enfin, il y a quelque chose où, en fait, c'est partout, quoi. Donc non, il n'y a pas trop de... Ouais, c'est un peu partout.
Pas de barrière entre les deux, non. Ouais.
Ça voudrait dire que la création et l'artistique, ils sont un peu partout, dans tous les domaines, dans tous les moments de vie ou...
Ouais, les idées, en tout cas, elles sont partout, tout le temps, quoi. C'est pareil, l'artistique, le truc, je ne sais pas trop ce que ça représente, ça, c'est... Mais genre, tout se mélange tout le temps, un petit dessin, une petite phrase, un mot, un truc, après tu le relis, t'en fais quelque chose de plus concret et tout, mais tout... Enfin ouais, moi, c'est la vie du quotidien, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est des influences, c'est de l'échange en permanence, de l'inspiration et du vivant, quoi, du partage avec les gens, en fait.
Yes. Allez, comme on était sur les mots, je vais vous demander... Le petit mot de la fin, et le petit mot de la fin, c'est un seul mot, n'importe lequel, qui représente votre création.
La liberté.
La liberté pour Léa, yes. Et toi, Maëlle ?
La vitalité.
La vitalité. Merci beaucoup Maëlle et Léa. Et
merci. Merci à toi pour l'invitation.
Oui, c'était un très bon moment et très sensible dans les studios de Divergence. Et à la réalisation aujourd'hui, c'était Robin Layou. Merci beaucoup, merci. Accompagné de Alice Rollet. À très bientôt sur les chemins de la création. Sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.